Couture, dans le mythe.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que, c'est ça.
Radio X.
Bon, ben, accident d'avion à LaGuardia, à New York. Le trafic aérien est bloqué, hein?
Oui.
Jusqu'à 14 heures.
Ouais.
À cet aéroport-là, on détourne, on est en train de faire une enquête.
C'est normal.
Deux décès d'annoncés officiels, les deux pilotes.
Épouvantable comme erreur.
Capoté. Voilà. Allez, on va jaser santé parce que on a eu le budget la semaine dernière et il y a beaucoup d'argent consenti à la santé. Hein? Tout est à l'État et tout est à la santé au Québec. Pour en parler, le médecin Karim El-Ayoubi, comment allez-vous?
Bonjour Pierre, ça va bien vous?
Oui, ça va bien. Comment on peut qualifier ce budget-là quand même? On augmente les dépenses de 4,1% l'an prochain, 4,1% alors que juste les salaires des employés, c'est 3,8%. Ça va être maigre pour le reste, hein?
Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ce qui arrive ici, c'est qu'on se dit 4,1%, c'est pas beaucoup. On avait déjà eu dans les derniers budgets, à un moment donné, du 7,5-8% d'augmentation. Puis, malgré ça, tout le monde en demandait encore plus. Tu sais, moi, j'aurais pas de problème, Pierre, à ce que ce soit 15% si notre croissance économique était au rendez-vous.
Ben, ouais,
exactement. Donc, tu sais, c'est toujours cette question-là. Tout le monde en demande plus. Ça inclut les médecins, ça inclut le personnel infirmier, ça inclut puis je dis pas que dans ces gens-là, ces gens-là ne mériteraient pas plus des fois dans certaines spécialités ou sur-spécialités ou le personnel infirmier. Mais pour regarder un peu la capacité de payer de l'État aussi, dans un système qui est un système public de rationnement, il faut le dire. Et ce qui m'inquiète ici dans ce 4,1%-là, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont au salaire, puis il n'y en a pas beaucoup qui vont à autre chose. Mais en plus de ça, c'est quand je regarde la prédiction de croissance du PIB réel, donc de notre taille de l'économie, elle est prédite pour l'année de 1,1%. Donc là, on a quand même encore une dichotomie entre notre croissance économique et l'accroissement des dépenses en santé. Parce que même pour les revenus du gouvernement, si on regarde, si on additionne la croissance réelle du PIB plus l'inflation, on risque de ne même pas se rendre à ce 4,1%-là. Donc, ça, c'est un peu technique là, ce que je dis ici, mais ça veut dire que, oui, c'est vrai qu'il y a des secteurs en santé qui sont sous-investis, comme par exemple au sein du PQI, la rénovation de certains hôpitaux, dont Maisonneuve, Rosemont, que lorsqu'on regarde dans le PQI, c'est juste en planification. Ça fait pas de sens. Après ça, on sous-investit dans les soins à domicile en santé mentale. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on la prend où, l'argent? C'est un peu ça, la question. Puis, tu sais, j'ai essayé de faire une petite démarche ici là, pour les auditeurs, puis je me suis dit, regardez, où est-ce qu'on peut vraiment couper quand on regarde les modèles les plus performants? OK, il y a plusieurs choses. On en avait déjà parlé. Il y avait bureaucratie et couche administrative, tous les doublons, les triplons, il faut que ce soit out. Ça, on est vraiment rendu là. Puis même s'il y a des gens qui sont pas contents, ben ils vont aller travailler au privé, puis c'est tout, là. C'est qu'à un moment donné, on n'a plus cette capacité de payer-là, et on a une pyramide inversée. Puis il y a une limite à l'immigration également. Donc, à partir de ce moment-là, ça, il faut vraiment couper là-dedans. Puis il y aurait des milliards à aller chercher, ça c'est clair ici. Aussi, il y a une autre chose, puis ça implique beaucoup le corps médical. Quand on regarde un peu qu'est-ce qui se fait dans certains pays, c'est-à-dire que pour éviter ce qu'on appelle services non essentiels. Mais il faut bien définir c'est quoi non essentiel, c'est-à-dire des services à faible impact clinique démontré. Je vous donne un exemple. Par exemple, demander un bilan sanguin très large, un screening très large chez un jeune athlète de 21 ans qui est en pleine santé. La probabilité que vous alliez trouver quelque chose là-dedans, son coût-bénéfice est tellement faible que dans un système comme le nôtre, on ne devrait jamais faire quelque chose comme ça. Les indicateurs, même on risque de nuire aux patients en faisant ça. Puis ça se fait trop encore dans le système. Utiliser, par exemple, des examens qui sont pas indiqués pour quelque chose de mineur. Je vous donne, par exemple, un exemple. Vous avez mal dans le dos, ce qu'on appelle une lombosciatalgie, mal dans le dos, douleur qui irradie dans la hanche, dans la jambe, pas de symptômes neurologiques à part de ça, rien du tout. vous prescrivez une IRM d'emblée au lieu de faire un traitement conservateur.
Donc, on y va avec la grosse Cadillac chromée, là.
Trop souvent, et même quand on regarde, moi j'ai passé, et puis même si les États-Unis, c'est un système très riche, puis il y a beaucoup de privés aux États-Unis, lorsque j'avais passé
les compagnies d'assurance, ils ne payent pas dans le vide non plus, là, aux États-Unis.
Non, ils ne payent pas dans le vide, exactement. Donc, moi, je me rappelle quand j'avais passé les examens américains, il y avait une question par rapport à ça, puis on dit, vous ne demandez jamais l'IRM pour un cas comme ça, puis ça se fait encore trop. Et il y a des pays qui utilisent des fois une rémunération partielle chez les médecins qui va être liée à la pertinence des examens qu'ils demandent pour donner un incitatif à ne pas trop demander d'examens. Et donc, ça, c'est des genres de choses qu'il faut faire. Des fois, également, des suivis en spécialité qui sont redondants. L'État n'a pas nécessairement à payer pour ça si ce n'est pas indiqué. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Mettons, un patient qui n'est pas si malade que ça, qui a dans le dossier un cardiologue, un endocrinologue, un interniste, un médecin de famille, puis un rhumatologue. Là, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'il y en a trop, là, des spécialistes dans le dossier? Puis, je pense qu'il va falloir réformer un peu la pratique médicale aussi pour... oui, il faut laisser de la liberté aux médecins de demander des spécialistes qui veulent tout ça. Il y a quand même une limite de capacité à payer de l'État. Et tout ça pourrait aussi se régler avec une première ligne qui est plus forte. Parce que c'est sûr que si vous avez une première ligne qui est plus forte, c'est-à-dire des patients qui ont accès à un médecin de famille, qui ont accès à une super infirmière, ben vous pouvez éviter des suivis spécialisés qui coûtent plus cher des fois. Puis moi, je ne reproche pas ça à mes collègues spécialistes. Des fois, le patient, il n'y a pas de médecin de famille, il n'y a pas de super infirmière, ben le cardiologue, il va suivre son diabète. On voit ça dans le système. Mais bon, je veux dire, son service payé va être payé plus cher.
Ah oui, non, c'est ça. Il faudrait réaligner les besoins de base. Mais là, je regarde, dans le budget, on abandonne... Tu sais, le projet des mini-hôpitaux privés, il y en avait deux, là. Deux mini-hôpitaux privés qui devaient voir le jour. La CAQ abandonne ça. La phase 3 aussi des maisons des aînés, c'est terminé. On met ça sur la glace. Ça dit long, là. Le privé, ils ne croient pas à ça, pas en tout, eux autres, la CAQ.
Pas beaucoup. Ben, ici, je dirais, Pierre, les maisons des aînés comme telles, ça, c'était... je suis d'accord qu'ils mettent fin à ça. Pourquoi?
Parce que
c'était au-dessus d'un million de la porte.
Ah, c'est entre 800 000 et 1,1 million.
C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, puis on voit qu'on n'a pas les moyens de payer ça. Puis c'est pas nécessaire non plus. C'est-à-dire, on est mieux de réinvestir plus dans les soins à domicile. Puis on sait qu'un lit de soins à domicile coûte significativement moins cher. Donc, à partir du moment où on a du personnel pour aller donner des soins à domicile, puis aussi une famille qui est présente, là, c'est pas dans tous les cas, bien, on peut sauver de l'argent avec ça. Puis il y a moyen, lorsqu'on est rendu dans des institutionnalisations de patients, d'avoir quelque chose de plus digne que ce qu'on a en ce moment, mais de ne pas aller nécessairement à un million de la porte, parce que, encore une fois, si on était très riche, j'aurais pas de problème.
Non, ça sent pas de ça. Mais pour les hôpitaux privés, ça, c'est un signe qu'ils veulent pas avoir de compétition.
Ils veulent pas du tout, à moins que ce qu'ils se disent, c'est, par exemple, on n'a pas besoin de le mettre dans le budget, parce que, de toute façon, on veut que ce soit un investissement qui est 100% privé. Si c'est ça, leur thinking, moi, j'ai pas de problème à ce moment-là. Ils veulent que ce soit un investissement qui est 100%.
Mais ils sont pas là. Ils sont pas là du tout. Là. Ils sont pas pantoute là.
Ils sont pas du tout là. Je pense que ça avait été, cette histoire-là. Moi, je me rappelle très bien, c'était en campagne électorale. Oui. On avait sorti, en 2022, on avait fait une sortie, moi et Éric Duhaime. On avait parlé de notre vision du privé en santé. Trois jours plus tard, ils sont arrivés avec deux hôpitaux privés parce qu'ils voyaient que quand même dans les sondages, les Québécois au Canada sont les plus ouverts au privé en santé. Donc, il avait été quand même assez wise ici. Mais moi, je l'avais dit, j'ai dit, je n'y crois pas du tout.
Non, ben, on n'y croit pas, la CAQ, de toute façon, c'est un échec. Hey, 68,7 milliards, ça va être le budget de la santé l'an prochain. On n'était pas, il n'y a pas longtemps, on était à 50 milliards.
Oui, il n'y a pas longtemps, on disait, je me rappelle, en la dernière campagne électorale, on disait 1 milliard par semaine. Mais là, 1 milliard par semaine, on peut plus...
C'est 52 milliards, là, on est rendu à 60, quasiment 69 milliards. Puis d'après moi, ils vont buster ça, là.
Mais c'est sûr, parce que avec le vieillissement de la population, il y a une augmentation de la taille de la population, puis un vieillissement de la population, pyramide inversée. Donc, c'est sûr qu'on va voir des augmentations. Puis parce que, également, c'est la seule façon d'avoir une croissance des dépenses en santé qui est équilibrée, ben c'est soit être plus riche, OK? Ça, je laisse ça au tout ce qui est question comment augmenter notre productivité.
Oui.
Je laisse ça aux économistes débattre de c'est quoi les meilleures façons. Et ou couper dans ce qui est non essentiel et réinvestir cet argent-là beaucoup plus près des patients. Ça, c'est une façon intelligente de le faire. Puis l'autre chose, ben, c'est d'amener beaucoup plus de concurrence pour faire baisser les coûts des interventions dans le réseau, modèle qu'on avait déjà discuté, concurrence privée.
Mais ça, ils veulent pas aller là. Ils veulent pas aller là. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas une ligne à un moment donné pour dire on examine, mettons, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça pourrait faire économiser au réseau au complet, là?
Ouais, ça c'est ce qui est. Moi, je pense que ça peut faire économiser de façon importante. Ça peut peut-être être difficile de le chiffrer tout de suite parce que tout le monde est comme un peu en réaction avec l'intelligence artificielle. Elle s'améliore de plus en plus. Moi, des fois, je m'amuse avec l'intelligence artificielle pour voir jusqu'à quel point je peux lui faire confiance dans mes dossiers.
Mais on a eu un médecin ici de la région de Québec, puis lui il dit qu'il travaille déjà avec l'intelligence artificielle, notamment pour les rapports aux patients, là.
Oui, moi je fais ça également. Puis des fois, je le teste un peu, c'est-à-dire j'essaie de tromper l'intelligence. Mettons qu'il y a un médicament qui se prend une fois par semaine, ben j'écris que je le prescris une fois par jour, puis je vois s'il me corrige, puis il dit oh, et puis là, au début, il le faisait pas. Il y a à peu près 7-8 mois, il le faisait pas.
Okay.
Maintenant, il le fait, il me dit attention, ça ne se prescrit pas de cette façon-là. Alors je commence vraiment à aimer ça. Puis des fois, il me remet en cause dans mon diagnostic.
Ah, ouais.
As-tu pensé à telle chose? Je ne dis pas qu'il y a toujours raison,
ouais.
mais on voit.
OK, il commence à être intelligent, contre-intuitif, là.
Beaucoup plus intelligent que ce qu'il était il y a 7-8 mois. Puis c'est sûr que côté lisibilité des notes, parce que les médecins, on n'est pas toujours ceux qui écrivent le mieux. Donc, on sauve du temps parce que quand un collègue lit notre note, ben c'est beaucoup plus clair. Puis il scanne le web à la vitesse de la lumière. Donc, il est en mesure d'aller nous chercher des références beaucoup plus rapidement. Là, maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est que les intelligences artificielles, les compagnies qui ont des dossiers médicaux électroniques travaillent pour les mettre à l'intérieur même des dossiers médicaux électroniques pour faire en sorte qu'il va être en mesure d'aller te chercher l'ensemble des examens que tu as demandé puis te donner des signaux d'alarme pour dire « Oh, ce patient-là, c'est mieux de le voir plus rapidement. Regarde sa valeur critique » ou des genres de choses comme ça. Ça, c'est super intéressant pour la sécurité des patients et pour les gains de productivité parce qu'une façon d'avoir des gains de productivité puis de sauver de l'argent aussi dans le système, c'est de faire en sorte que chacun, qu'on n'a pas des gens qui font des tâches pour lesquelles ils sont trop formés. C'est-à-dire médecin de première ligne qui fait plein de paperasse ou spécialiste qui voit des patients qui devraient être vus en première ligne.
Ça va débourrer, là, on le voit. Il y a même, on peut même faire des applications puis le code s'écrit tout seul avec Claude, là, d'entreprise.
Ouais, oui.
À un moment donné, tu lui dis « je veux ça », puis il te le fait, puis il te fait le code au complet. À un moment donné, là, l'informatique va prendre le dessus, puis on va allumer, là, puis on va accélérer peut-être la productivité.
Oui. Je dirais que c'est peut-être une des choses, puis ça s'applique pas juste à la santé, mais je parle de la santé parce que c'est mon domaine, mais c'est peut-être l'aspect qui m'encourage le plus pour le futur du système de santé au Québec. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous sauver, en guillemets.
Oui, toute la paperasse, là, c'est ça.
Oui,
l'embourbement, là. Puis on met aussi 200 millions sur 5 ans pour favoriser le rattrapage en chirurgie. Ça, c'est 40 millions par année. Ça aussi, les chirurgies, là, il y en a en attente, pas à peu près, des...
Ça, c'est pour ouvrir des salles, des salles avec du personnel. Moi, j'espère que dans ce 40 millions-là, il y en a quand même pas mal qui va être utilisé dans des cliniques privées parce qu'ils ont démontré faire plus d'interventions par unité de temps. Donc, si on veut l'utiliser de façon le plus optimale possible, ben, faut aller là où est-ce. Ou que ça se fasse dans le réseau public, c'est correct, mais il faut s'assurer que les salles soient ouvertes du matin au soir.
Mais encore faut-il qu'il faille donner à nos médecins spécialistes les bons outils, là, puis toutes les facilités, parce qu'eux réclament ça pour être plus productifs dans le réseau.
Tout à fait. Ben oui, c'est sûr. Ça prend l'équipement nécessaire, puis ça prend le personnel qualifié nécessaire également.
Mais Santé Québec, là, avec toute l'IA qui monte, il devrait avoir un comité spécial juste là-dessus. Là. C'est-à-dire, avec des recommandations rapides, là.
Ben, moi, je pense que oui. Là, au salaire où les gens sont payés dans Santé Québec, on espère...
Pour moi, ça va trop vite encore.
on en espère qu'ils vont nous arriver avec quelque chose de concret, particulièrement par rapport à l'IA. Il y a aussi, dans l'histoire de l'IA, les ordres professionnels qui sont un peu en réaction par rapport à ça.
Ouais.
Parce que comme ça va très vite, ils se disent, OK, jusqu'à quel... comment on va être en mesure d'encadrer ça pour que ce soit pas dangereux pour le patient? Puis comme c'est nouveau, c'est rapide, les gens qui sont au sein des ordres professionnels, par exemple au Collège des médecins, ben je veux dire, c'est pas des PhD en informatique là. Donc à partir de ce moment-là, la réaction peut être un peu lente, à savoir qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on encadre ça. C'est sûr que les autres professionnels vont avoir à se prononcer parce qu'ils sont là pour protéger le public.
Oui.
Et là, une IA, ça peut être merveilleux, mais ça peut être destructeur aussi si tu ne sais pas bien comment t'en occuper, l'utiliser et si elle n'est pas programmée correctement pour la santé. Donc, je pense que c'est ça qui ralentit un peu. Je pense que c'est peut-être pas la machine elle-même, la vitesse de la machine, mais plus les craintes de l'être humain par rapport à cette machine-là et comment bien l'intégrer dans les dossiers médicaux électroniques pour qu'elle soit un bénéfice pour le patient, pour le système, pour l'économie, mais qu'elle vienne pas nuire aux patients.
Oui, puis en bout de ligne, c'est la productivité, là. Si on est capable de prendre davantage de patients avec le même budget, là, des fois peut-être qu'on rêve en couleur, mais en tout cas, on va souhaiter quand même l'optimisme pour la prochaine année en santé. Karim El Ayoubi, médecin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée, voilà. Ouais, mais tu sais, il y en a. Tu le vois, là. Tu es capable de faire une application. Tu demandes ce que tu veux, puis elle te le fait.
Oui.
Elle te fait le code au complet?
Bon, faut que tu apprennes une couple d'affaires, mais ça le fait.
Non, mais ça va aller vite, là.
De plus en plus, Pierre.
Ça va pas assez vite.
Juste en un an.
Mais non.
C'est exponentiel. C'est...
Tout ce que ça... Mais tu sais, le but, c'est de réduire la paperasse, les délais d'attente.
Absolument.
Faire en sorte que ça soit fluide dans le réseau. Ça, c'est des choses que je dis, là, que je suis pas sûr que...
Ouais, mais ça, là, ça implique-tu de couper des jobs, ça, là, puis d'être productif?
Ben oui, c'est sûr.
Ah, OK.
Ben oui, mais tu sais, c'est ça, l'affaire. Le budget est là, ben on va dépasser le budget au complet, hein, c'est
ben
ça?
Ben oui, puis tu sais, on l'entend, là, dans toutes sortes de sphères. Ouais, là, on renouvelle le budget, il faudrait qu'on dépense, là, parce
ben
que...
Ben oui.
Hein, on achète des affaires, là.
Là, on est fin mars, là.
Ouais.
Et hey, là, ça y va.
Dépêche-toi, parce qu'on va se le faire couper, sinon.
Photocopieuse.
Achète des affaires.
Ouais, achète. Bon, hey, on ouvre les lignes après
juste
la pause.
Avant, petite nouvelle à saveur politique.
Oui, vas-y.
Régionale. Tu te souviens de Serge Bonin, qui était chef de Repensons Lévis.
Oui.
Sur la Rive-Sud. Il a été défait aux dernières élections.
Qui était venu nous voir ici.
Ben, il annonce ce matin qu'il va tenter sa chance avec le Parti québécois, Pierre.
Ah!
Et il va se présenter dans la circonscription des Chutes de la Chaudière pour la prochaine élection.
Lui, il était dans l'opposition à Lévis,
oui,
là.
Tout à fait. Alors, Serge Bonin qui se présenterait pour le Parti québécois.
C'est un péquiste.
Ouais, ben, il s'en cachait pas, je pense. Là.
Non, je pense qu'il était très, très, très péquiste.
La question, on reste dans le gouvernement.
On ouvre les lignes,
écoute, cet article-là dont tu as parlé avec Nicolas Gagnon ce matin, concernant le fait qu'on n'aura probablement pas le choix d'augmenter les impôts.
Non seulement pas le choix, c'est inscrit.
Fait que vous en pensez quoi? Je veux dire, tu sais, à un moment donné, là, on paye déjà très cher de taxes et d'impôts. On n'a pas nécessairement de service. On sait qu'il faudrait couper pour au moins juste maintenir ce qu'on a sans que ça nous coûte plus cher. Ou l'autre option qu'on a, c'est d'augmenter les taxes et impôts puis de maintenir pareil.
Ouais, mais
fait qu'on s'en sort pas.
L'idée, là, c'est que ce gouvernement-là était piégé. Eux, l'an passé, se sont fait décoter.
Ouais.
Ils devaient faire un ménage.
Ouais.
Mais t'as des élections qui s'en viennent. Fait que tu peux pas te dire que tu vas faire un ménage. Tu comprends? Tu vas perdre tes élections. Ils vont se faire sortir pareil, là. Mais tu vois, ils sont piégés, eux autres.
Ben oui.
Fait que ce budget-là là, qu'on voit, là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il n'y a pas de volonté, à part le Parti conservateur du Québec, aucun parti parle de faire gestion normale d'un budget. Là,
équilibré et responsable.
Oui, c'est ça. Mais écoute, tu as eu...
De faire un vrai ménage.
Moi, je pense que collectivement, on n'est pas mature.
Ben là, c'est parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on veut arriver avec un équilibre budgétaire puis améliorer nos services... Nous n'avons pas le choix d'accepter.
Mais la machine veut pas.
Qu'on paye plus de taxes et d'impôts. Êtes-vous d'accord?
Quand tu arrives avec ça, ben là, tu te fais traiter de quoi, là? De l'austérité.
Ouais, l'austérité!
Fait que là, t'as une machine qui veut rien savoir de compresser les dépenses.
Mais on n'a pas le choix. Tu l'as dit. Nous sommes obligés d'augmenter les taxes et impôts pour arriver. Êtes-vous d'accord? T'sais, on n'a pas le choix.
Mais là, êtes-vous d'accord? Puis qu'est-ce qui peut être fait? Y a-t-il quelque chose qui peut être fait ou vous êtes carrément...
On coupe? Qu'est-ce qu'on fait? Quel service on coupe?
Êtes-vous désillusionné?
Ouais.
Il y a ça aussi. Hein.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.